Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis curieux. Combien sont comme moi? Aucun époux regarde son épouse maintenant en disant « Toi, t'es curieuse. » Non. Mais je suis curieux, pas d'une curiosité malsaine comme « Je veux tout savoir de tout le monde, je stalke sur Facebook tout le monde. » Non. Pas la définition qui dit que la curiosité est un vilain défaut. Plus, j'aime la définition qu'à la base de toute connaissance vient la curiosité. Et que nous devons tout le temps être curieux d'apprendre, de connaître, d'avancer dans notre connaissance pour justement avancer dans notre vie. Je suis très curieux de tout. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'aime lui poser des questions. Et puis, autre que celle de la météo en disant « Vas-tu mettre ton abri tempo demain ?» Parce qu'on dirait que le printemps, il ne sait pas vraiment s'il vient ou pas. Non, en plus, le côté où on rentre dans des discussions parfois, et puis c'est pour ça peut-être que je suis pasteur, dans des questions plus spirituelles. J'aime savoir ce que les gens pensent de sujets plus existentiels. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des discussions plus deep avec vos collègues de travail, des gens dans votre voisinage? Puis on se rend compte que les gens ne sont pas forcément ignorants de toutes les questions spirituelles, même s'ils ne sont pas croyants. En fait, chacun a un sujet, chacun a une réponse à toutes les questions, vrai ou pas? Parfois, il y en a qui ont trop d'avis à donner. Mais ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble et puis qu'on soit curieux d'apprendre encore plus à ce que la parole de Dieu a à nous offrir. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce matin, la question que je vous pose sur un sujet important qui est dans la thématique justement des promesses de la résurrection, c'est quelle est ta vision de l'éternité? Qu'on soit croyant ou non, je me rends compte que tout le monde s'est déjà posé la question, y a-t-il une vie après la mort? Les questions existentielles de qu'est-ce qui se passe quand on a terminé cette vie terrestre? Puis peu importe, réellement, je parle avec des amis athées, puis même s'ils ne croient pas qu'il y a un Dieu, ils avouent qu'ils pensent parfois. En disant parfois, je pense, je me dis oui, mais est-ce qu'il y a une éternité? Puis rapidement, ils se disent non, s'il n'y a pas de sens à la vie, on est juste une coïncidence sur cette terre, un caillou qui a tourné pendant des millions d'années, puis qui a fait qu'on est là, mais on va mourir, puis il n'y a pas de sens à cette vie. Donc il n'y a pas de sens à la mort, donc il n'y a pas d'éternité. Pour mes amis agnostiques, agnostique veut dire qu'ils croient en une divinité, en un Dieu, en une puissance supérieure, mais qu'on ne connaît pas et qu'on ne pourra jamais connaître. Ce qui fait que c'est très flou, et pour eux, c'est comme, on ne saura jamais s'il y a une éternité, un paradis, un enfer, et en fait, je ne veux pas forcément y penser, parce que ça me fait peur. Le flou fait peur, vrai? Amen. Mais, nous, en tant que croyants, nous avons l'assurance que notre vie est éternelle, que cette vie-là est passagère, et que Dieu nous réserve une place incroyable, qui sera un million de fois meilleure que celle que l'on vit ici. Est-ce que vous avez la même assurance que moi? Parce que ça, c'est l'assurance de notre salut. Par contre, j'aimerais vraiment qu'on regarde en ce moment, ce matin, que l'éternité, même si elle reste un mystère, parce que l'homme ne pourra pas le comprendre entièrement, nous sommes limités, même si c'est un mystère, Dieu nous l'a révélé pour que nous ayons hâte d'y aller. Et peu importe qui vous êtes ce matin, peut-être que vous êtes croyant depuis longtemps, peut-être que vous êtes ici pour la première fois, et vous vous posez ces questions sur l'éternité sans réellement savoir où chercher les réponses. Mais la Bible nous le dit dans Ecclésiaste 3:11, que Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain la pensée de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. C'est-à-dire que chaque être humain, de chaque génération, pensera à un moment donné à l'être humain parce que nous sommes faits pour vivre éternellement. Dieu nous a créés pour que nous ayons un commencement, mais non une fin. Et il nous a destinés, il veut que nous soyons avec lui éternellement dans la vie réelle qui nous a placés, qui nous a prévus. Ce matin, la première vérité que j'aimerais qu'on sache, c'est que l'éternité est une promesse de Dieu. Vous savez, même si on pense à l'éternité, même si j'aime vulgariser les complexes théologiques complexes, j'aime essayer de simplifier pour expliquer le plus simplement des concepts parfois qui sont difficiles à comprendre. Et même si j'essaye de le faire, parfois ça reste quand même compliqué à expliquer avec des mots, mais je vais essayer de faire mon mieux. Est-ce que vous êtes là pour m'encourager? Je vous vois avec des yeux comme « Ok, on te regarde aller, on te suit. » Non. Puis, même la temporalité est difficile des fois à comprendre. Mon fils qui a 4 ans, Lenny, on lui explique un peu comme, voilà Lenny, le temps là, tu regardes tes pattes patrouille, mais dans 10 minutes, tu iras brosser tes dents. Lui, 10 minutes, ne comprend pas. Donc, c'est dans 2 épisodes de pattes patrouille que tu pourras aller te brosser tes dents. J'essaye de lui donner combien sont comme moi, on essaye de toujours dealer Puis dès que le deuxième est fini, encore un, papa, encore un. Non. Dernier, ensuite, tu vas te brosser tes dents. Il est 10 heures du soir, il est encore sur pas de patrouille. Non, maintenant, tu vas brosser tes dents. Père indigne, vous dites. Arrêtez de me juger. Puis j'essaie de lui expliquer le temps et tout ça, mais c'est compliqué pour lui. Puis à un moment donné, je lui dis, Lenny, est-ce que tu aimes papa? Oui, papa, je t'aime. Mais Lenny, tu aimes comment, papa? Puis là, il essaie de donner le plus grand moyen d'exprimer son amour. Il dit, papa, je t'aime jusqu'à Noël. J'espère que le 26 décembre, tu m'aimeras toujours, s'il te plaît. Mais il y a comme un côté de... C'est difficile à comprendre pour lui. Alors imaginez que l'éternité pour nous, en tant que personne humaine, restreinte, c'est compliqué à comprendre. Mais Dieu nous a fait une promesse. Je suis en train de vous préparer une place là-haut. Alors même si on ne peut pas comprendre tout, on doit comprendre que là-haut, ça doit être merveilleux. Est-ce qu'il y en a qui le croient? Est-ce qu'il y en a qui sont heureux et qu'on peut applaudir le Dieu qui nous prépare une place qui va être incroyable? Et parfois, je parle avec des chrétiens, puis je me rends compte que le paradis pour eux est vraiment flou. C'est comment l'éternité? Comment tu le vois? Je pense qu'il y a un paradis, un enfer. Puis... Ok, décris-moi le paradis. Et parfois, leur conception du paradis ne me donne pas envie d'y aller. Ben, je ne sais pas, puis Ben, je ne sais pas, c'est un peu flou. On m'a dit que ça sera comme une grande pratique de chorale qui va durer vraiment longtemps. Mais Ben, moi, je chante faux, et puis même Jésus ne me voudra pas dans sa chorale. Je suis comme, non, tu penses que ça soit vraiment comme ça? Parce que même moi, si je suis chanteur, je ne pense pas que ça va être une pratique de chorale éternelle. À un moment donné, ça va être long. L'éternité, c'est un peu long. Non, il y en a qui me disent, est-ce qu'on va vraiment être entouré de personnes qu'on ne connaît pas pour l'éternité? Parce que déjà, moi, à l'église, j'essaye de me faufiler, pas trop voir tout le monde, mais là, l'éternité, tout le monde, non. Il y a des conceptions qu'on a, puis peut-être ça vient de notre culture aussi. Toutes les peintures qu'on a vues du paradis des anges sont des petits anges, un petit peu bidonnants, avec une harpe flottant sur les nuages, tout nu. Tu sais, c'est comme, ça vous donne envie d'y aller? Moi non plus. Puis des fois, on a une vision de l'éternité, du paradis, qui est comme vraiment bizarre. On sait qu'en tant que chrétien, c'est là où on va devoir aller, mais parfois, on n'est pas pressé d'y aller. Alors que les promesses de Jésus pour notre résurrection et pour la vie éternelle sont tellement belles, sont tellement pleines de vie que nous devrions ce matin dire, Seigneur, on a hâte d'y arriver. Et c'est mon défi ce matin. Je veux qu'on ressorte de ce lieu en disant, Seigneur, j'ai hâte de vivre éternellement dans ta présence. Parce que même si ce monde ici, tu nous donnes des promesses, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde, je sais que ma vie, le but ultime, c'est d'arriver dans ta présence et d'être éternellement avec toi auprès de ta gloire. Amen. Et ce matin, c'est mon défi. Vous savez, les promesses de Jésus, c'est qu'il nous a dit quand il était ici sur terre, ne vous inquiétez pas, je ne vous retire pas du monde, vous allez vivre ici. Puis la vie va être difficile, mais Dieu est bon. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et cette place-là va être incroyablement meilleure que votre vie ici. Et même si je vais être avec vous ici, ne vous inquiétez pas, je m'en vais vous préparer une place. Imaginez que tout ce qui est bon sur cette terre nous vient de Dieu, la Bible nous dit. Amen. Imaginez votre meilleure journée de votre vie. Je ne sais pas c'était quand. Il y en a qui vont dire, c'est mon mariage, c'est le jour de la naissance de mes enfants. C'est le jour où j'ai eu mon cégep. Pour les étudiants, non, ils sont en fin de session, il ne faut pas leur parler de ça. Mais il y a vraiment un côté où, quelle est la journée la plus belle de ton humanité? Ça ne va même pas être une goutte de joie et de bonheur comparée à l'éternité. L'immensité de son amour, on l'a chanté ce matin, l'océan de son amour est incroyable. Et c'est ce qu'il veut nous montrer. Et ce matin, je veux vraiment qu'on le comprenne. Ça va être une place incroyable. Puis même si les interprétations de comment va être le paradis, la description, ça dépend de l'interprétation des textes, il y en a qui le voient comme imagé ou symbolique, peu importe, ce que Dieu nous réserve là-haut va être incroyable. Ça va être une place incroyable. Des nouveaux cieux, la Bible nous dit qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Cette terre dont on vit ici, elle soupire après la restauration, après tout le côté où je vais enfin vivre pleinement avec Dieu, la création soupire après le retour de Christ. Ça va être d'une beauté incroyable, époustouflant. Imaginez les plus beaux paysages de cette terre sans rien comparer à ce qu'on va vivre là-haut. Ce ne sera pas un endroit invisible où on va flotter sur des nuages. Non, il y aura de la vie. La Bible nous dit qu'il y aura des rues, des villes, des animaux, de la nature. Il y a une harmonie parfaite entre chacun. Il n'y aura plus de limites physiques, nous aurons des corps glorifiés. Si t'as rêvé de voler, tu voleras. C'est arrivé de... Réellement, il n'y aura aucune limite physique. Jésus, quand il était sur cette terre, encore glorifié, il n'était plus limité par le contexte terrestre. Et nous aurons ce corps glorifié quand nous serons en haut. Surtout la présence perpétuelle et parfaite de Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. Peu importe ce qu'on va, qu'est-ce que nous on va vivre là-haut, c'est qui nous allons, avec qui nous allons vivre. Nous allons être en présence parfaite et perpétuelle de la présence de Dieu. Nous verrons Jésus face à face. Nous contemplerons et chanterons à sa gloire. Et tout le monde chantera juste. Il y en a qui ont de l'espoir, yes. Tout nous sera révélé. Plus aucun questionnement, plus aucun doute, plus aucun péché, plus aucune culpabilité. Combien ont hâte d'aller dans ce paradis? Et c'est une vérité, c'est une assurance. Amen. Un lieu parfait où il n'y aura plus de peur, plus de souffrance, plus de déception, plus d'angoisse, plus de péché, plus de colère. Rien que la paix, l'amour, la joie. On pourra même manger sans grossir. Parce que je pense que les calories sont une des côtés de la chute. Mais si on parle du paradis, on ne peut pas parler que du paradis, il faut qu'on parle de l'enfer. Parce que l'éternité est à deux chemins. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tout fait et fait encore tout. Et aujourd'hui, je suis en train de prêcher cet évangile que Dieu veut que vous passiez l'éternité avec lui dans sa gloire. Mais il nous laisse le choix aujourd'hui de décider de notre éternité. Et l'enfer, puis certaines personnes avec qui je parle parfois me disent « Non, il ne faut pas parler de l'enfer. » Ça fait peur aux gens, ça. C'est comme blâmer le médecin de vous annoncer une maladie. Ce n'est pas de sa faute. On annonce la maladie, mais par contre, on annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ que notre condamnation a été déjà payée. Et notre enfer a été changé en paradis si nous reconnaissons Jésus-Christ. Donc la bonne nouvelle est pour tout le monde ici. Peu importe qui tu es, peu importe depuis combien de temps tu es loin, peu importe le nombre de péchés que tu as, tout a été payé à la croix. Et la bonne nouvelle, c'est que le paradis nous est offert. Mais il faut parler d'enfer parce que la première mission de Jésus était quoi ? De venir nous sauver d'un enfer éternel. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Périsse pas, ce n'est pas dans ce monde-ci, c'est ne périsse pas pour l'éternité dans un étang de feu éternel. Là aussi, ça peut être symbolique ou imagé, ce que vous voulez, c'est la pire des endroits possibles. Et Dieu est venu nous chercher. Je parlais avec un homme cette semaine au café, puis alors que je préparais mon message, j'aime poser des questions, je vous ai dit, je suis curieux. Puis alors que je lui pose des questions sur l'éternité, sur la vie après la mort, je me rends compte qu'on a vraiment une bonne discussion. Au début, je ne savais pas réellement ses croyances, puis je comprends rapidement que c'était un croyant non pratiquant. Un catholique qui dit, ben moi je crois au paradis, je crois en Dieu, je crois au... Puis quand je lui dis, mais croyez-vous à l'enfer? Il me dit, non, pas ça. Non. Je dis, mais croyez-vous à la Bible? Oui. Croyez-vous que Jésus a dit est vrai? Oui. Jésus a beaucoup parlé de l'enfer. Oui, mais c'était dans un contexte de... Parce qu'on ne veut pas. C'est comme, non, j'ai pas envie de penser à ça, c'est la mauvaise nouvelle. Parle-moi de la bonne nouvelle. Je ne peux pas parler de la bonne nouvelle sans mauvaise nouvelle. Jésus est venu changer notre humanité, changer notre éternité. Puis il me dit, non, je ne pense pas qu'un Dieu miséricordieux et aimant... Non, je pense qu'il y a le pardon. Donc même ceux qui sont pécheurs vont être pardonnés. J'ai OK. C'est vrai, parce que bibliquement, Jésus est venu nous offrir le pardon à tous. Par contre, si aujourd'hui je décide de ne pas le suivre dans cette vie, est-ce que Dieu va m'obliger à le suivre pour l'éternité? Puis là, il a rigolé. Je ne sais pas. J'ai comme, non, parce que là, ça serait un Dieu qui me force à passer l'éternité avec lui, alors que je n'ai même pas voulu suivre dans cette humanité. Puis les conceptions sont comme, puis je ne lui ai pas prêché mon message comme ça, ne vous inquiétez pas. Là. On a pris mon café, bonne soirée, à la prochaine fois. J'espère qu'il entendra ce message. Non. L'enfer, c'est un lieu où personne ne veut aller. Même si vous connaissez des gens en ce moment qui disent « Ah, moi, Dieu, je m'en fous. Puis quand je vais aller en enfer, je vais m'amuser, ça va être le fun là-bas. » Non. Des fois, on voit une conception où c'est le DJ. Le diable, c'est le DJ de l'enfer et puis ça va être le party. Non. L'enfer a été prévu pour que le diable y soit. Et enchaîné. Parce que le mal, et on le sait, hein, on le sait tous, que le mal existe sur cette terre. Et c'est une des causes de ce que l'ennemi de nos âmes, le diable, a fait. Donc l'enfer ne va pas être un lieu de réjouissance, aucunement, non. C'est un lieu loin de Dieu, et donc sans rien qui n'est de Dieu, ni la paix, ni l'espoir, ni la lumière. Si le paradis est difficile à décrire, l'enfer aussi. La Bible nous dit que c'est un lieu où le pire lieu, même la pire des personnes, ne pourrait s'y plaire. Ça ne sera pas le parter, non. Puis si vous croyez que le feu, ça soit littéral ou symbolique, de toutes les manières, ça ne sera pas une bonne nouvelle d'y aller. Jésus a vaincu la mort, puis on vient de fêter Pâques la semaine dernière. Et c'est ça la bonne nouvelle. c'est que même si on était destiné à être séparé de Dieu pour l'éternité, Jésus a dit non, je vais prendre votre place. Je vais être séparé de Dieu pour un moment, pour vous donner ma vie, pour que la mort n'ait même plus à avoir une... Vous ne serez même plus écrasé par la mort. La mort va être juste un passage de cette vie ici à la vie d'en haut, une vie éternelle. Combien sont reconnaissants pour la croix? Combien sont reconnaissants pour Jésus-Christ qui a pris sur nous la mort, qui l'a vaincu? Notre vie... Amen. Mais parfois, puis même en tant que chrétien, même si on sait que l'éternité est notre destination, parfois on est tellement fixé sur cette vie ici qu'on oublie que ça va être un endroit incroyable. J'aimerais qu'on fasse l'illustration. Je vais descendre. Peut-être que vous l'avez déjà vu. L'illustration de la corde. Puis, imaginez cette corde. C'est une ligne du temps. Okay. Puis, la partie rouge représente notre humanité et la partie blanche représente notre éternité. Et là, elle va à l'infini. Elle va à l'infini. Elle va à l'infini. Ludovic, tu me suis? Elle va à l'infini. Okay. Imaginons que cette corde aille à l'infini. Parfois, nous passons notre vie ici. C'est peut-être 80 ans, 100 ans, 120 maximum pour ceux qui sont les plus robustes. 150 peut-être un jour. Mais peu importe, même si tu rajoutes 10 ans à ta vie, le nombre de proportions est quand même assez limité. Puis parfois, même en tant que chrétien, on passe tellement toute notre vie à essayer de « Oh, quand j'aurai mon cégep, là je vais pouvoir enfin peut-être avoir une voiture. » Et puis « Oh là, je vais être tellement heureux quand je vais être là. » Puis quand on l'a, on se rend compte que le gaz coûte cher. Alors, « Ah, mais quand un jour je vais avoir une job, puis une maison, deux chiens, une piscine, et puis... » Quand tu as une piscine, tu te rends compte que tu as des problèmes de piscine. Puis là, tu es comme, oh non, mais OK, mais là, je vais sauver de l'argent, je vais placer mes REER et je vais travailler toute ma vie. Puis là, je vais faire des heures supplémentaires. OK, même si je ne vois pas la famille que je... Non, mais je vais essayer de sauver, pour qu'en fait, ici, là, je pourrais vraiment profiter de ma vie. Et parfois, on oublie de passer notre vie sur les choses qui sont éternelles. Parce que la Bible nous dit que notre éternité va être déterminée par ce qu'on va vivre dans notre humanité. Et parfois, même en tant que croyants, nous vivons sur des choses qui sont éphémères, nous passons notre temps et notre énergie et notre joie circonstancielle à ce qui se passe ici, alors qu'en fait, notre salut devrait être notre joie. Parce qu'on sait qu'ici, quand on rencontrera Dieu, à la fin de notre vie terrestre, là, le parter va commencer. Et là, il n'y aura plus de fin. Et là, ça va être incroyable. Puis peut-être toi, tu es ici et puis tu te dis, même ma vie ici, elle n'est même pas heureuse. Je subis ma vie. Peut-être que tu es dans une situation qui a tout est brisé en ce moment et puis tu arrives à l'église en disant « Je suis ici puis j'ai même envie de la terminer maintenant. » Mais Dieu nous dit que même si cette vie-là va être courte, mais il va quand même être avec nous ici. Mais ce qu'on va prendre comme décision ici vont être tellement incroyablement impacter notre éternité. Et la manière dont on va vivre notre éternité va être en fait déterminée par ce qu'on va vivre ici. C'est pour ça que ce matin, c'est une bonne nouvelle. Peu importe la manière dont tu es venu ici, Jésus est là pour te rencontrer, pour te dire, peu importe le nombre de temps qui te reste, peut-être c'est 5 jours, peut-être c'est 50 ans, je suis avec toi et tu vas vivre une vie qui va porter du fruit pour l'éternité. Est-ce qu'il y en a qui le croient? Est-ce qu'on peut remercier Dieu qui nous prépare une éternité incroyable? La deuxième vérité que je veux qu'on comprenne ce matin, c'est que si nous comprenons l'éternité, en tant que chrétien, ce que Dieu nous réserve, si nous comprenons cette éternité, ça va tout changer la manière dont on va vivre notre humanité. Nos priorités seront différentes. On ne vivra plus seulement pour ce qui est éphémère. Puis vous savez, j'ai la tête sur les épaules. Je ne suis pas quelqu'un qui me dit juste, « OK, il faut juste prier toute ta journée, il faut t'enfermer. » Non. J'ai une vie, j'ai une femme, j'ai des enfants. Je veux vivre, je veux profiter de la vie parce que ce que Dieu me donne, tout ce qui est bon, vient de Dieu. Donc, je ne vais pas juste essayer de subir ma vie en me disant « Ah, tout ce monde est difficile, c'est juste éphémère. » Non. Dieu nous donne, puis Jésus nous l'a montré. Quand il est venu ici, il a profité de la vie. Il a mangé, il a bu, il était avec ses amis, il a enseigné, il a encouragé, mais il a fait des choses qui comptaient. Si on regarde une semaine, le temps de notre énergie est mis sur quoi en ce moment? Est-ce que c'est mis sur des choses éphémères? Est-ce que c'est mis sur des choses juste que... Je veux tellement me faire du cash que je suis prêt à casser ma santé. Puis je connais beaucoup de jeunes là, qui, en ce moment, enchaîne des 20-30 heures d'études, mais des 40 heures de job pour juste essayer de dire « je veux impressionner tout le monde, je veux pouvoir sortir le week-end ». Mais tu brûles ta vie sur des choses qui ne sont pas importantes. Est-ce qu'on a besoin de l'argent? Oui. Et Dieu a promis qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent pourtant. Tout ce qu'ils ont, ils continuent. Il y a un côté où les promesses sont pour nous sur cette vie. Mais il faut que nous vivions par rapport à ce que Jésus veut qu'on vive. L'éternité, ce n'est pas juste la destination après ma mort. C'est l'objectif ultime de ma vie. Je parlais avec un de mes amis cette semaine, puis il me dit, j'étais né dans une famille chrétienne, et puis toute ma vie, je n'ai pas vraiment compris l'éternité. Puis un peu comme je vous l'ai dit tantôt, il y avait comme des manières de penser qui étaient comme plus négatives sur l'éternité. Et puis il dit, quand j'ai été à un cours à l'ITF, puis c'était Pasteur Marc qui prêchait sur l'enfer, sur l'éternité, sur le paradis et sur les promesses que Dieu nous donne de sa résurrection et de la nôtre, il dit, pour la première fois, je suis sorti du cours avec un sourire en disant, waouh, ce qui va se passer là-haut, ça va être incroyable, j'ai hâte d'y aller. Mais parce que j'ai hâte d'y aller, je ne vais pas subir ma vie ici. Je vais faire des choses qui vont compter. Et là, ça a changé sa manière de vivre, sa manière de faire, sa manière d'interagir avec les gens de sa famille. Parce que le pardon qu'il ne voulait pas accorder à certains l'empêchait de vivre ce que Dieu voulait qu'il vive ici. Et alors qu'il a compris que, non, c'est vrai, il faut que je vive pour les choses qui sont importantes, essentielles, éternelles. Ça donne un sens à notre vie quand on comprend l'éternité que Dieu nous offre. On vit pour ce qui compte vraiment. Malheureusement, la majorité des gens pensent à l'éternité seulement quand ils sont à une funéraille. J'en ai fait beaucoup. J'en ai célébré beaucoup au niveau du chant. Les gens me demandaient d'aller chanter Grâce infinie à des funérailles. Et puis, je le faisais avec beaucoup de sérieux parce que quand on arrive dans des funérailles, c'est quand même lourd de tension, de sens. Et puis, la majorité des personnes, je ne les connaissais pas, mais je voyais la tristesse des familles. Et puis quand le pasteur venait puis expliquait le message d'espoir, peu importe si la personne était croyante ou non, les gens dans la salle se posaient les questions. On voyait qu'ils commençaient à se dire, « Et moi, ça va être quand en ce moment ?» Puis, est-ce que j'ai hâte à ce moment ? Je ne vous parle pas d'avoir hâte à la mort, mais qu'est-ce qu'il va y avoir après ? Et puis, ils regardaient des fois le cercueil, puis je les voyais penser. Il est où maintenant ? On sait qu'il n'est plus là. C'est juste une enveloppe. Il n'y a plus de vie là-dedans. C'est juste un corps. Mais où est son âme? Où est son esprit? Où est ce qui était important de lui? La Bible nous dit que nous avons été créés éternels. Nous vivrons éternellement. Maintenant, nous avons deux choix. Je vous le dis parce qu'à un moment donné, je me souviens même qu'il y avait des personnes, même dans des funérailles, continuent à passer leur vie stickées sur une humanité tellement éphémère. Je me souviens parce que c'était à la fois drôle et triste. J'étais avec ma guitare, je termine le service. Et puis là, alors que je veux aller pour ranger ma guitare, je dois passer à côté du corps. Et puis là, il y a les deux sœurs, les deux filles de cette personne, et puis qui commencent à chicaner. De toute façon, ce tableau-là, c'était à moi qu'elle l'avait donné. Et puis, ce n'est pas à toi de le prendre. Et puis, la chicane commence à pogner dans le service funéraire. Puis là, j'étais là, imaginez-moi. Hein. Vous savez, un moment où tu es à l'aise dans ta vie, c'était parfaitement ici. Là. J'étais comme, waouh, je veux tellement chanter. Puis là, je commence, hey, Christ est ma joie. Non. Puis là, j'étais avec ma guitare, mais je devais partir, puis je voulais pas interrompre, mais en même temps, je me disais, mais c'est tellement pas le lieu, c'est tellement pas... Et des gens comprenaient pas que ce qui se passe ici est tellement pas important par rapport à l'éternité. Il faut qu'on prenne connaissance de ce que Dieu veut qu'on vive. Jésus veut que nous vivions à son image ici, pour refléter sa gloire pour l'éternité. Quelles sont tes décisions que tu prends maintenant? Jésus l'a vécu lors d'un décès, un décès de ses amis. Dans Jean 11, la Bible nous dit que Jésus arrive après le décès de son ami Lazare. Ça fait déjà 3-4 jours qu'il est dans un tombeau, il est mort. Puis là-bas, le Moyen-Orient, c'est chaud. Donc les corps sont rapidement en décomposition. Puis je vous épargne les détails, mais Jésus arrive là et puis c'est les funérailles. Tout le monde pleure, tout le monde. Puis Marthe et Marie courent vers Jésus. Puis là, d'une manière comme désespérée, mais en même temps, mais pourquoi tu n'étais pas là avant? Pourquoi? Parce que là mon frère est mort. Puis là, il y a comme une colère qui vient. Et puis Jésus dit, ne t'inquiète pas. La mort n'est pas la fin. Et il va dire une phrase qui est tellement incroyable. Dans Jean 11, 25, il dit, je suis la résurrection et la vie. Lui dit Jésus, celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Jésus n'a pas dit, je suis la vie et la résurrection. Non, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Si tu comprends ma résurrection, tu vivras bien. Parce qu'il dit, le terme vivre, je suis la vie, c'est le terme zoé en grec. Ça veut dire la plénitude absolue de vie, à la fois essentielle et morale. Jésus dit, je suis la plénitude absolue de la vie. Et celui qui vit en moi, c'est le terme zao, qui dit vivre sa vie, la manière d'agir. Il est en train de dire, si tu comprends que je suis la vie et je suis la plénitude de la vie morale, essentielle, tout ce que tu veux, tu vas commencer à agir et vivre d'une manière qui va être digne de moi. Il dit, même s'il meurt, celui qui croit et qui vit en moi ne mourra pas, il vivra éternellement. Combien le croit ce matin? Que notre vie est plus que ce qu'on vit ici. La Bible dit que nous sommes une vapeur. Notre vie ici est une vapeur. Et si on vit déjà dans la résurrection de Christ, alors notre vie ici doit être pleine d'espoir. On ne doit pas juste attendre la mort. On ne doit pas être médiocre dans notre vie. Non, le chrétien est appelé à briller. Nous avons la vie de Christ en nous. Nous devons briller. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Nous devons briller. Nous devons donner du goût à cette vie. Quelqu'un disait, en lisant l'histoire, on découvre que les chrétiens qui ont le plus apporté au monde présent étaient précisément ceux qui pensaient le plus au monde futur. Et parce que tu as les yeux rivés sur la fin de la course, sur le jour où Jésus va t'accueillir en disant, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as travaillé tant d'années, tu as souffert tant d'années, mais tu es resté fidèle, maintenant entre. Ça a changé. Les premiers chrétiens persécutés, quand Paul les encourageait, il disait, vous inquiétez pas. Même les tortures, les souffrances de ce monde sont rien comparées à la gloire que nous allons avoir. Il va essuyer toute larme de nous. Puis, il y avait une situation là où il disait, on va être persécuté pour notre foi. Mais Jésus disait, mais aie confiance, j'ai vaincu ce monde, j'ai vaincu la mort. Et Paul se disait, l'éternité est notre but ultime et notre objectif. Gardez les yeux sur la fin de la course, courez fidèlement. Puis nous ici, on n'est pas persécuté pour notre foi. Mais est-ce que notre confort nous fait oublier que l'éternité est notre but ultime? Vous savez, la semaine dernière, alors qu'on célébrait Pâques, il y a un attentat qui a pris place au Sri Lanka, puis des églises et des centaines de morts. J'ai lu dans la presse cette semaine, pas dans la presse, le magazine québécois, mais dans une presse internationale que c'est un pays qui est sous la persécution. Et les chrétiens savent qu'ils peuvent partir à tout moment. Comme Paul le disait, je ne sais pas quand je vais partir. Et ce matin-là, dans l'éducation chrétienne, le responsable disait aux enfants, qui y vit pour Jésus? Tout le monde lève la main. Puis il dit, mais si, qui serait prêt à mourir pour Jésus? Tout le monde lève la main. La moitié de ces enfants de cette église sont partis dans l'éternité, comme ça. Ils avaient conscience que leur vie, ici-bas, était juste un passage vers l'éternité. Et eux étaient bien conscients de ça parce qu'ils vivaient la persécution. Ils voyaient des personnes être prises, kidnappées, torturées, emprisonnées. Puis ils savaient que le moment pouvait arriver n'importe quand. Ils étaient prêts, même les enfants étaient prêts. Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer notre Créateur? Et on ne vit pas peut-être sur la persécution, mais on s'entend que l'espérance de vie ici, c'est que 100% du monde va mourir. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Je vais inviter les musiciens à revenir. Parce que notre but ultime n'est pas le confort dans cette vie. Et bien que Dieu veut que nous ayons une vie abondante ici et il veut nous remplir de bénédictions, amen, on ne va pas subir notre vie. Et on vit au Québec, et je remercie Jésus pour vivre ici au Québec, dans un monde occidental où on a notre liberté de parole, où on peut prêcher l'évangile, où on peut célébrer ici, et puis qu'on a une liberté. Merci pour les gens qui ont travaillé pour cette liberté ici. Et Paul dit, hein, priez pour les autorités afin que nous continuions à vivre dans cette vie ici. Mais alors que cette humanité ici, est-ce qu'on la vit dans un bon but spirituel? Ou est-ce que toute cette vie ici est de juste attendre Dieu pour qu'il rende cette vie-là parfaite? Parfois nos prières, parfois peut-être ici quelqu'un, tu es peut-être déçu, frustré. Puis même ce matin, tu es là avec un cœur comme, ah, Dieu n'a pas exaucé ma prière. Je lui avais demandé ça, et puis en fait, je ne l'ai pas encore eu. Je ne l'ai pas encore. Puis en fait, tu pries juste pour que ta vie ici soit parfaite. Tu vis pour que le confort de l'éternité soit en fait ici sur ton humanité. Mais Jésus a dit, non, 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 cette vie-là, échuté. Nous vivons dans une vie avec du péché, avec de la souffrance, avec... Oui, je ne vous retire pas du monde. Je vous mets dans le monde, mais brillez. Portez du fruit. Et ce que vous allez faire ici va déterminer votre éternité. Il faut qu'on comprenne qu'en tant que chrétien, notre espoir ultime n'est pas cette vie-là. Notre espoir ultime est en Jésus-Christ qui nous a donné la promesse d'une résurrection éternelle et que nous vivrons à jamais avec lui. Et c'est ça qui doit réjouir notre cœur. Le salut de Jésus-Christ doit être ta joie complète, peu importe tes circonstances. Paul était en prison, les fers aux pieds, aux mains, puis il disait « Je suis dans la joie. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. J'ai l'abondance de tout. » Non, il n'avait rien. Humainement, il n'avait rien, mais spirituellement, il savait que je suis heureux, je suis comblé parce que si j'ai tout, mais que je n'ai pas Jésus, j'ai rien. Mais si j'ai rien, mais que j'ai Jésus, j'ai tout. Et c'est ça l'abondance du chrétien. C'est ça la promesse. Nous avons l'assurance de notre salut. Je termine alors qu'il y a quelques semaines, je m'apprêtais à prêcher pour les baptêmes à Nouvelle Vie, à annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile. Je reçois un appel de mon père en disant que mon grand-père de 103 ans vient de décéder en France. 103 ans, il a fait une bonne vie. Il a vécu, il a profité, il a été épanoui, il a eu un leadership, mais un mentorat incroyable sur notre famille. Et alors que je suis dans l'avion, je rentre, j'arrive là-bas et la famille me demande si je peux faire la cérémonie des funérailles. Je ne l'ai jamais fait, j'ai déjà chanté à beaucoup de funérailles, plus ou moins à l'aise. Mais j'arrive là, puis je me dis, waouh, je veux faire une éloge à mon grand-père, mais en même temps, je veux parler de sa passion qui était Jésus. Mon grand-père, je suis certain que s'il avait pu décider de ce qu'on aurait parlé à sa funéraille, il aurait dit, parlez peu de moi, mais parlez beaucoup de Jésus. Il avait rencontré Jésus, il avait délivré de l'alcoolisme et tout ça, et puis il y avait vraiment quelque chose, une vie incroyable. Puis alors que je suis là, je me rends compte que toute la famille est triste, oui, parce qu'on perd notre grand-père, on perd le patriarche, 103 ans. Mais réellement, j'avais jamais senti cette paix de me dire, waouh, quelle vie il a vécue et quelle vie il est en train de vivre maintenant. Et il y avait en même temps une tristesse qu'on comprend. Jésus a pleuré quand il a appris que Lazare était mort. Hein. Il a vu la souffrance, puis ça l'a touché. Il était ému de compassion. Nous devons vivre nos émotions. Mais en même temps que je vivais mes émotions négatives, je disais, waouh, quelle vie, quelle joie, quel sourire il a sur son visage. Il n'y a plus de limitation physique maintenant. Il peut courir, il peut être heureux, il peut reparler, il peut faire tout. Et puis il voit surtout la présence de Jésus-Christ, son Sauveur, qu'il avait tant hâte de voir. Quelques jours avant sa mort, il disait, je suis un homme heureux. Il savait que la fin de sa vie était là, hein, mais il était heureux parce qu'il savait que sa vie avait compté pour l'éternité. Je vous le dis que j'ai déjà vu des personnes qui étaient au bord de la mort et qui n'avaient pas cette assurance. Et ça change tout. As-tu l'assurance de ton salut ce matin? Si tu me réponds non, la bonne nouvelle, c'est que ce matin, tu peux l'avoir. Et ça prend pas un CV avec tout ça. Non, ça prend juste de te dire, ma vie, je l'abandonne puis je la donne à Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque Jésus vit en moi, l'éternité avec la vie éternelle a déjà commencé. Et cette vie n'est qu'une vapeur. Quand je vais partir, je vais vivre la vraie vie pour l'éternité. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Jésus qui nous donne l'assurance de notre salut? Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux pour un instant? Puis alors que je terminais pour les funérailles de mon grand-père, je pensais à cette citation que Billy Graham, un grand pasteur connu aux États-Unis, un évangéliste, qui disait « Un jour, vous lirez ou vous entendrez que Billy Graham est mort, mais n'en croyez pas un mot. Je serai alors plus vivant que je ne le suis maintenant. J'aurais juste changé d'adresse. Je serai alors dans la présence du Seigneur. » C'est exactement ce que je pensais pour mon grand-père. Il y avait une célébration dans ma vie en disant, il est maintenant là où il n'y a plus rien qui le rend triste. Il n'y a plus rien qui le fait douter. Il n'y a plus rien qui le fait trébucher. Maintenant, il vit plus que jamais. Et il nous attend. Et j'ai l'assurance que Jésus qui a été ici, quand il va nous revoir là-haut, il va dire, j'étais tellement attendu, je suis tellement heureux. Et maintenant, rentre dans la joie de ton maître. Et maintenant, le parté va être là. Et maintenant, on va revoir les personnes qu'on a aimées depuis longtemps et qui sont parties avant nous. Parce que notre assurance n'est pas juste que notre vie ici doit être parfaite. Non, on sait que la vie qu'il nous prépare est déjà clairement plus que parfaite. Et c'est là où on veut aller. Et peut-être ce matin ici, tu es là et puis tu es découragé de ta vie chrétienne. Tu sais que tu es sauvé, mais en ce moment, ton humanité te fait souffrir. Garde les yeux sur Jésus, parce que c'est lui qui renouvelle tes pensées, ton cœur, qui te donne une paix qui surpasse toute intelligence, peu importe les circonstances. La vie est dure, mais Dieu est bon. Rappelle-toi ça, la vie est dure, mais Dieu est bon. Je suis avec vous jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin du monde. Saint-Esprit de Dieu est ici dans ce lieu ce matin et il veut renouveler nos cœurs, nous redonner une passion, une hâte à l'éternité avec lui dans sa présence. Alors que les yeux sont baissés, j'aimerais juste faire un appel à peut-être toi qui es ici, qui te dis, ça me donne tellement envie d'y aller, mais je ne suis même pas sûr d'y aller. Puis tu n'as pas une assurance de ton salut parce que tu n'as peut-être jamais donné ta vie à Christ. Christ est venu en tant qu'homme, il a quitté sa gloire. Le Fils de Dieu est venu sur terre vivre une vie parfaite, mais tenté en toutes choses, comme nous. Il sait ce que nous vivons, il sait ce que tu vis en ce moment, il sait ce que tu as traversé. Et quand tu pleures, il pleure avec toi. Il est venu vivre une vie ici. Il a souffert et mort à la croix pour prendre sur ses épaules tout ce qu'il ne voulait plus que tu portes sur toi. Et alors qu'on était destiné à une mort éternelle parce qu'on était séparé de Dieu par le péché, Jésus a dit, je prends cette séparation sur moi, je prends le péché de l'humanité au total. Et maintenant je meurs et je sais que Dieu, mon Père, va me ressusciter parce que la mort ne l'a même pas vaincu. Et alors que Jésus est mort, il te donne sa vie. Et alors qu'il est ressuscité, il te donne l'espérance et la foi et l'assurance d'une vie éternelle en sa présence. Et on a juste une chose à faire, comme l'a dit Jésus. Celui qui vit et croit en moi. Ce matin, tu as juste à croire que le Fils de Dieu a donné sa vie pour que toi, tu puisses vivre. Tu as juste à dire, Jésus-Christ, je reconnais que tu es descendu des cieux, tu as donné ta vie, tu as été blessé pour me guérir. Tu es mort pour me donner la vie et je reconnais ton sacrifice. Je te demande pardon parce que tu as porté sur toi ce qui me revenait à moi. Tu as juste à faire cette prière-là. Puis tu as à dire, maintenant Seigneur, parce que tu m'as sauvé, je vais vivre une éternité avec toi et je vais vivre mon humanité avec toi. Je vais vivre ma vie comme toi tu veux que je la vive. Si c'est ta décision ce matin, alors que les yeux sont baissés, ce n'est pas un spectacle, personne ne regarde, juste symboliquement, lève ta main en disant, moi je veux cette assurance aujourd'hui. Merci pour les mains qui se lèvent. Merci pour les mains qui se lèvent. Parce que notre assurance est dans le nom de Jésus, pas dans ce que nous avons fait, mais dans ce que Jésus a fait. Et il a déjà tout accompli. Maintenant, j'aimerais faire un deuxième appel à une église qui se dit peut-être, nous avons besoin et nous avons le goût de retrouver une hâte à l'éternité. Et nous voulons déjà vivre dans cette éternité ici. Nous voulons marcher sur les pas de celui qui a marché avec nous sur cette terre, sur Jésus. Est-ce que Jésus faisait ici porter du fruit dans l'éternité? Je veux porter du fruit dans cette éternité. Est-ce qu'il y a une église qui veut répondre? Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour se dire, oui, on veut se reconsacrer à Dieu. On veut ton Saint-Esprit, Seigneur, qui renouvelle nos pensées, nos cœurs. Et que ce matin, on puisse dire, Seigneur, j'ai hâte à ton retour. Je n'ai pas hâte à mourir, je ne veux pas juste quitter cette terre, je veux juste que tu puisses me montrer que l'éternité va être incroyable et que ma vie doit porter du fruit. Amen. Est-ce qu'on pourrait applaudir et remercier notre Dieu qui nous donne une assurance, une joie, peu importe les circonstances. Chantons ensemble.